Bon vendredi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler d'argent, de richesse à l'instant. Je vais également vous dire qu'on va parler d'école et de la façon dont on doit aborder certaines différences. Vous savez qu'on parle de plus en plus d'homosexualité, de bisexualité, de transgenrité. Et tout ça, il faut en aborder ces questions-là, il faut en parler. Et souvent, on suggère de le faire le plus tôt possible parce que ça ouvre les esprits. Là, il y a un nouveau guide qui vient d'être lancé et je trouvais intéressant de discuter avec vous du rôle de l'école et des enseignants là-dedans. Est-ce que ça vous dérange, vous, qu'on parle de ces sujets-là, qu'on parle de transgenre, de LGBTQ, de toutes ces nouvelles façons d'aborder la sexualité et l'identité de genre? On en parlera donc en deuxième heure d'émission, puis on va terminer en se posant la question, c'est qui magazine le plus dans votre couple? Et là, c'est très drôle, parce qu'avec l'équipe, justement, on se disait qu'il y a encore beaucoup de préjugés. T'sais, là, ça, je vous entends, vous dites, ben c'est sûr, c'est la fille qui magazine le plus. Des petites nouvelles pour vous, pas toujours le cas. Nous verrons ça tout à l'heure avec vos anecdotes. Mais oui, on va d'abord parler d'argent en première heure, parce que vous avez vu que dernièrement, les chefs de parti se sont fait demander leurs rapports d'impôts et leurs états financiers. Hey, sincèrement, là, il faut quand même dire une chose. Il faut être fait fort pour aller en politique. Ça te tente-tu, toi, de dire combien tu gagnes devant tout le monde, de dire combien tu vaux, parce que l'équité, c'est ça, là, l'équité. Combien tu vaux, là, tes immeubles, ton auto, ton chalet, tes réens. Faut quand même dire, faut vouloir être premier ministre. Il y en a qui veulent vraiment beaucoup. Et là, évidemment, parce que là, tu t'affiches. Et là, tu t'exposes à toutes sortes de commentaires de gens qui vont dire « Ouais, regarde, il est plein, là, 9 millions. » Ouais. Il y a des gens qui ont de la misère à comprendre comment ça marche les états financiers. Il y en a, et visiblement, même les impôts reportés, des fois, il y en a qui comprennent pas comment ça marche non plus. Mais on se posait la question. Chacun, on a une vision très personnelle du montant d'argent avec lequel on voudrait bien composer. Vous, c'est combien? Combien ça vous prendrait, là? Posez-vous la question, là. Combien ça vous prendrait pour vous dire hey, « Moi, je suis riche dans la vie. » Puis après, il y en a qui vont dire « Bon, la richesse, la richesse. C'est pas de l'argent, la richesse. La richesse, c'est ce que t'as dans le cœur. » Oui, d'accord. Mais il faut que ça balance aussi à la fin du mois. T'sais. On va en parler avec Luc Poirier parce que quand on pense à Goriche, je sais pas pourquoi, Luc, on a pensé à toi tout de suite. Tu vois?
Bonjour.
Millionnaire de son état. En tout cas, la dernière fois qu'il a compté. Oui, c'est ça, toujours?
Oui, toujours, toujours.
Toujours plus ou toujours?
Oui, non, toujours plus. J'ai fait des bons placements dernièrement, entre autres quand j'ai acheté le Montreal Children. Et d'autres.
Non, c'est vrai, c'est à toi,
projets.
Ça. Ouais.
Ouais, c'était à moi, j'ai revendu toutes mes parts, mais j'ai fait beaucoup d'argent, effectivement.
Ça, c'est bon. Tu nous donneras quelques petits conseils, parce que nous, on en cherche des opportunités, parce que j'espère que vous avez compris que le REER, puis là, le CELI, toute la gang qui veut voter Québec solidaire, allez lire leurs intentions sur le CELI, juste pour le fun. Vous allez voir que peut-être, c'est peut-être pas...
Mais c'est pas rétroactif, dépêchez-vous.
Non, oui, enlevez votre CELI.
Non, mettez-en là.
Sophie Bérubé est avec nous. Salut Sophie.
Bon matin.
On a pensé aussi à toi, parce que toi t'es avocate, donc avocat, ça roule, hein, ça va bien. Et en plus, parce que tu m'avais déjà confié, puis tu vas nous le dire ce matin, que tu as hérité aussi, tu as eu un héritage.
Mais oui.
Ça, c'est une façon aussi de s'enrichir. Tu me diras qu'est-ce que c'est pour toi être riche. Anne Lagacé-Dawson, journaliste.
Celle
ça
qui
nous
est
cherchait.
Pas riche.
Ouais, on avait besoin. On s'est dit, voyons, qui qu'on connaît qui n'est pas riche?
C'est ça, voilà.
C'est une blague, mais en fait,
non,
en même temps,
vrai.
En même temps, bon, classe moyenne qui essaye de se débattre avec aussi toutes sortes de choses, des enjeux que beaucoup de gens qui nous écoutent vivent. Je veux dire, on parle pas assez d'aidants naturels, mais toi, entre autres, t'as un enfant qui a des enjeux particuliers.
Ouais. D'ailleurs, je suis très reconnaissante envers le système de santé du Québec et du Canada pour ça. Là. J'ai une fille avec une anomalie osseuse et je suis récemment divorcée.
Ouais.
Alors,
qu'est-ce
voilà.
qui est pire?
La situation de mon enfant, je dirais.
Ouais, hein.
De loin, ouais. Parce qu'on sait pas quel enfant qu'on va avoir. On a tous les espoirs. Et là, quand on est devant un problème quand même assez grave comme ça, là, c'est un deuil qui dure longtemps.
C'est de penser à l'après. On voit pas c'est l'autonomie ça. De notre enfant de la même façon.
Non, c'est ça. Puis justement, j'ai mis de l'argent de côté dans un... Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais un Registered Disability Savings Plan.
Mm-hmm.
C'est comme une façon de mettre de l'argent de côté pour elle plus tard. Parce qu'on
ah, oui,
sait
ça.
Pas... Ouais. Oui, on sait pas... sa capacité de travailler.
En même temps, tu as commencé en disant, je remercie le système de santé, donc tu arrives à avoir des soins. Parce que beaucoup de gens, écoute, on a parlé une heure de santé pas plus tard qu'hier, puis beaucoup de gens se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix d'aller au privé. Mm-hmm. De plus en plus, c'est ça. Et ça, ça coûte de l'argent. Donc,
en effet.
Ça, c'est pas fort partir malheureux. Sur le système de santé, mais non, quand mais on parle de richesse...
Je vais me faire opérer au privé dans deux vendredis. Oui. Là.
C'est là non, où déjà...
En t'as... Attendant, c'est dommage. Puis, si j'avais pas les sous, elle serait... comment je pourrais dire, elle s'améliorerait pas autant que maintenant. Donc, j'ai une enfant malentendante qui est ma petite fille, qui vient d'avoir 7 ans. Et ça fait toute la différence d'avoir des sous parce qu'elle avait des rendez-vous orthophonistes et autres à 4-5 fois par semaine à 100-120 $ de la fois.
Ah ouais.
Donc, au public, elle n'aurait jamais avancé comme elle a avancé. Aujourd'hui, elle a intégré l'école régulière, ce qui était impossible selon son ancien professeur, son ancien directeur d'école. Elle allait dans une école spécialisée pour les sourds et muets. Donc, ça a changé sa vie, avoir des sous, puis avoir les meilleurs appareils, parce que, par exemple, le gouvernement donne les moins chers, donc paye, c'est gratuit, mais ça vaut pas grand-chose.
Ça, c'est terrible, ça. Moi, j'ai fait du lobbying, il faut le dire. J'ai été chanceuse aussi, parce qu'il y a une association des personnes de petite taille qui ouvre les portes pour les gens. J'imagine qu'il y a une association pour les enfants malentendants aussi.
Oui, il y en a.
Mais ça, c'est fort malheureux, parce que ça, c'est très injuste, ça.
Mais
certaines
ça,
personnes
vie,
qui passent devant d'autres alors que le écoute, besoin
écoute,
est là pareil.
Il y en a qui se sont achetés des salles d'opération, des salles d'hôpital. Ils ont leur nom sur la porte. Ils ont donné beaucoup d'argent à l'hôpital. On voudrait tous faire des dons à des hôpitaux pour être sûr que la journée où tu es malade, tu rentres avant les autres. C'est ça la vie aussi. Fait que, tu sais, quand on dit, on essaie beaucoup de nous faire croire qu'on est tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux.
Non, mais il faut quand même continuer à militer pour
c'est clair,
cet
c'est
accès-là quand
c'est
même.
Ça. J'aimerais. Alors, je vous pose la question, puisque c'est quand même ça notre question. 100 000 piastres, 1 million, 10 millions. Combien ça prend d'argent pour considérer riche? Il y a un ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, pour ne pas le nommer, qui m'avait dit ici à ce micro il y a quelques années qu'un riche au Québec, c'était quelqu'un qui faisait 50 000 $. En même temps, je comprenais... Ouais, hein, Luc? 50 000 piastres.
Ça, c'est la moyenne des Québécois, je dirais.
Et je pense que c'était plus dans un...
45 ans?
C'est ça. 42 000 piastres, là, c'est le salaire moyen du Québécois. Bon, considérant qu'il y a quand même pas mal de monde qui travaille au noir, ça devient mêlant de savoir c'est quoi le salaire moyen du Québécois. Tu sais, parce que quand tu reviens en avion, et vous avez déjà remarqué, quand on revient en avion, là, puis qu'on survole Montréal, la rive sud, la rive nord, il y a bien du monde qui ont de la piscine creusée. Tu te dis, je peux pas croire que le monde fait 40 000 piastres. Il y a toujours bien, il y a du monde qui doit en mettre quelque part, qui ont oublié de le dire. Tu sais? Mais c'est vrai, je pense que... Alors, j'en reviens à ma question. Ça vous prendrait combien... Sophie, toi, t'as déjà interviewé quelqu'un très connu, le milliardaire Jarislowski, là-dessus, qui t'avait dit combien, lui, qu'il fallait?
En fait, là, juste avant, parce que je veux être sûre qu'on démonise pas ceux qui ont de l'argent ou ceux qui font de l'argent, parce que des fois, c'est cette division-là qu'on voit en ce moment au Québec, surtout dans le cadre des élections. Puis je trouve ça déplorable, parce que moi, un de mes idoles... Là, vraiment, là, c'est le milliardaire Steven Jarislowski.
Ouais.
J'ai eu le bonheur de l'interviewer il y a 10 ans maintenant. Et il a répondu candidement à toutes mes questions. Lui, ce gars-là, il est vraiment radin. Là. Il allait dîner avec Pierre-Éliott Trudeau. Puis lui, Pierre-Éliott Trudeau, c'est connu. Il était radin, lui, avec. Puis là, il était au club privé. Puis là, il s'ostinait un peu. Il y avait comme une espèce de duel, savoir qui allait prendre la facture.
Les deux voulaient aller aux toilettes en même temps quand t'arrivais le bill.
Ah oui, c'est deux hyper riches. Puis ça en était une joute un peu. C'est quelque chose. C'est une game psychologique. C'est quelqu'un qui a la même maison, très modeste. Il vaut 2 milliards. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça prend pour être riche? Combien ça prend pour être riche? Et il a avancé ce chiffre que je trouve intelligent, qui était 10 millions. Parce que 10 millions, on calcule, mettons, de manière conservatrice, 5 % d'intérêt, 500 000.
10 millions en cash?
Oui, 10 millions en, mettons, de capital. Mm-hmm. Et bon, c'est arrivé à 500 000 de revenus de placement. On paye la moitié, mettons, en impôts. 250 000 clients par année, tout en protégeant ton capital. Donc, pour lui, c'était le chiffre qui avait avancé. Mais lui, il dépensait même pas ça. Il avait le même char depuis toujours. Pour moi, qu'est-ce que ça prend être riche? Je veux dire, moi, j'ai dépassé mon seuil de richesse. C'est-à-dire que, je te dirais, le jour où j'ai arrêté d'avoir peur de manquer, j'étais jeune avocate, puis je pouvais acheter n'importe quoi à l'épicerie, puis n'importe quelle cochonnerie au dépanneur. Je sais pas si vous avez grandi, moi, j'ai grandi dans la classe moyenne, là, puis acheter du beurre de pinot au dépanneur, ça aurait été une hérésie. parce que c'était 2 piastres de plus ou 3 piastres de plus qu'à l'épicerie. Donc, ce genre de geste-là, là, de dire, moi, là,
c'est
si j'ai le goût...
C'est dans le fond de ne pas penser à combien
de
ça coûte.
De pas penser. Ouais. J'ai une amie multimillionnaire. C'est elle, ça a été le moment où est-ce qu'elle dit, moi, je rêvais d'avoir 50 piastres à dépenser au centre d'achat. Mais maintenant, je peux acheter tous les livres que je veux chez Renaud Bré. C'est à ce moment-là. Elle a atteint ce seuil-là. À ce moment-là, je faisais 56 000 par année. Et mon père, qui était très, très économe, voire radin, c'est un séraphin des temps modernes, mais il était très sympathique, par exemple, et il assumait qu'il était économe. C'est-à-dire, il faisait pas semblant. T'sais, moi, quand je connais des gens radins qui font semblant d'être généreux. Lui, il allait jamais au restaurant. À chaque fois qu'on mangeait chez nous, il disait, hey, ici, là, on a économisé 50 piastres, on est allé au restaurant. C'était vraiment un personnage. Et il nous a jamais donné d'argent. Jamais. Sauf si je devais de l'argent à quelqu'un. Je disais, papa, je dois 1 $. Puis là, il vérifiait, tu sais, collé avec les doigts pour être sûr qu'il n'y avait pas 2 $ de collé. Donc, j'ai appris à me débrouiller dans la vie sans mon père, sans son argent, mais quand même avec de l'aide. Tu sais, j'ai manqué de rien, là. Tu sais, je dis pas que j'étais pas obligée de travailler à 12 ans, là, dans un sweatshop, là.
Ouais.
Tu sais, j'ai pu étudier, puis par contre.
Et il t'a légué. Il était ouvrier, ton père, c'est ça?
C'est ça. Donc, à 29 ans, j'avais accumulé 200 000. Moi, personnellement, en achetant, revendant un condo, et j'ai atteint une indépendance, c'est-à-dire que j'ai pu quitter un emploi que j'aimais plus, qui était payant, pour un emploi qui n'était pas payant, c'est-à-dire j'ai quitté les grands bureaux pour aller travailler en journalisme. Donc, j'ai passé de 100 000 par année à 25 000 par année. Donc, pour moi, à ce moment-là, j'étais indépendante. Mais j'avais encore peur de manquer. Et à 30 ans, j'ai hérité, oui, 1 000 000. Donc,
wow!
Mais...
Wow!
Là, je,
de votre père?
De mon père.
Ah, comment il a fait pour ramasser 1 000 000?
Il était ouvrier, marine d'industrie, 48 ans dans une shop depuis l'âge de 17 ans. Mais
est-ce qu'il y avait une assurance vie qui
avait
payé?
Non,
pas
du tout. C'est un passionné de bourse. Là, vous allez comprendre le lien avec Jerry Slusky. Ouais. Je suis une fan de Jerry Slusky parce que mon père était une fan des Warren Buffett et il était passionné de bourse. Je lui ai lu les codes de la bourse sur son lit de mort. Non, c'est un passionné.
OK, donc il y avait une connaissance, puis il y avait un intérêt.
Mais pour moi,
hériter,
ça a été un choc, puis ça m'a rendu malheureuse pendant quelques années.
On va
revenir pourquoi après.
Dis-nous pas tout de suite. Luc, toi, ça te prenait combien? Parce que toi, en plus, ce qui est intéressant dans ton histoire, en plus, là, toutes vos histoires sont intéressantes, franchement, ce matin. Celle de Luc, c'est que tu étais pauvre, toi, vraiment. Là.
Plus que pauvre. Plus que pauvre. J'ai commencé à vendre des cartes de hockey à 14 ans parce que tout simplement, je voulais jouer au hockey dans la ligue municipale là, qui coûtait comme 125 $ l'inscription. Puis on n'avait pas les sous pour payer l'inscription. Donc, moi, je me suis dit, je vais me débrouiller moi-même à 14 ans. J'ai commencé à vendre des cartes de hockey. Puis j'ai trouvé un petit filon qui a rapporté beaucoup. Donc, la différence des marchés entre ici puis le reste du Canada. Puis c'est comme ça que j'ai fait beaucoup d'argent. Puis que. La suite.
Mais toi, c'était important, étant donné que tu viens d'une famille très pauvre, de dire éventuellement, là, moi, je vais être riche. Là. Est-ce que c'était ça, le moteur, la motivation?
En fait, c'est sûr que j'avais plus de motivation parce que j'étais tanné de ne pas manger à la fin du mois, par exemple, ou ces choses-là. Puis en même temps, quand tu as 14-15 ans, tu as un sentiment que tu veux être comme les autres, donc bien habillé avec des souliers Adidas, ces choses-là. Moi, je pouvais pas. Donc, j'avais la soif d'avoir un peu de sous, pas nécessairement d'être riche, mais dans ce temps-là, je tripais sur les Porsche, par exemple, là, sur les voitures. Puis mon rêve, c'était d'avoir une Porsche. Fait que j'ai jamais pensé plus loin que ça, mais je voulais avoir une Porsche dans ma vie. Quand, je savais pas, mais c'est ça que je voulais quand j'étais petit bonhomme. Puis, à la file du temps, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'entrepreneur. Que je suis devenu à force de faire plusieurs entreprises, de démarrer. Puis, j'adore mon style de vie aujourd'hui. Puis moi, pour moi, la richesse, un peu qu'est-ce que j'écris dans mon sous-titre de mon livre « Voir grand », c'est la liberté.
Ouais.
En fait, moi, je pense que chacun a une façon de voir, être riche ou pas riche.
Chacun a un montant dans sa tête.
Oui, c'est ça. Puis ça dépend beaucoup de la liberté. Comme disait Sophie, elle, quand elle a été capable d'être libre à un certain moment donné, puis c'était ça, elle se dit qu'elle était riche à ce moment-là. Mais chacun décide de combien il a besoin d'argent pour la liberté. Mm. Puis moi, quand je dis aux gens, quand tu peux te permettre de ne pas rentrer travailler le matin, de décider où tu veux travailler, avec qu'est-ce que tu veux faire. Ouais, comme être ici, par exemple, si j'avais un patron, je ne serais pas capable d'être ici. Là. Donc, c'est un peu ça. La liberté égale la richesse, puis chacun peut vivre dépendamment de son train de vie.
Mais toi, ton montant, là,
Ce serait à peu près comme Sophie, comme Jari Lusky, 10 millions, parce qu'on peut placer, les taux d'intérêt vont de plus en plus être bas dans l'avenir, à 3, 4, 5 % Puis si on place 10 millions, on a 3, 4, 500 000. Puis je pense que c'est un beau montant pour vivre. Mais même à 100, 150 000, quand tout est payé, ta maison est payée, tes voitures sont payées, c'est correct également. Ça dépend vraiment du train de vie. Moi, je connais des gens qui sont sur la route, qui sont nomades, qui voyagent partout dans le monde, puis ils gagnent à peu près 50, 60 000. Ils dépensent pas, mais ils sont super heureux. Ils ont deux enfants.
Puis ils sont riches, dans le fond.
Ouais, ils
voyagent plus.
Oui, c'est beau de les voir.
Mais toi, donc, ton chiffre, 10 millions, t'as plus que ça?
Oui, j'ai beaucoup plus que ça, là, c'est sûr, mais moi, je dépense beaucoup. Puis je suis marié aussi.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça coûte cher. Non, c'est une blague.
C'est moins cher d'être marié, c'est plus cher d'être divorcé.
Oui, tout à fait.
C'est ce qu'ils disent.
Anne, as-tu
un montant, toi?
Non, moi, j'ai pas de montant et je dois dire que pendant ma vie, mon revenu a comme monté, baissé. Mais jamais dans les chiffres que mes collègues ont cités, mais jamais.
Ça donne mal au cœur, 10 millions?
Mais moi, je trouve que c'est comme rarissime, là. C'est pas du tout. C'est atypique, là.
T'es même pas le 1%.
Hérité d'un million, là.
Écoute, 0,01%, là.
Ouais, c'est ça. Il y a plein de monde qui écoute, dont moi, qui vont hériter de rien. Puis
c'est sûr.
Qui ont commencé. Moi, j'ai livré des journaux dans le temps qu'on livrait des journaux. Les jeunes livraient des journaux. J'ai travaillé dans des délicatessen. J'ai gardé des enfants. J'ai fait plein de trucs. Mon père est mort à 16 ans. Il était ouvrier, lui aussi. Donc, j'ai commencé à fonctionner de façon autonome à partir de l'âge de 17-18 ans. Mais j'ai fait beaucoup d'études. Moi, je suis restée jusqu'à faire une maîtrise à l'université.
C'est une richesse.
Par la suite, j'ai payé mes prêts et j'ai travaillé tout le temps que j'étais étudiante, d'ailleurs. Ça fait que... Puis j'ai été animatrice à la radio, après candidate, après...
candidate pour le
fédéral, et puis après pour la commission scolaire. Et ça, parfois, on est puni quand on se lance en politique, on perd ses jobs.
Mais ça prenait une liberté, une indépendance financière de faire tous ces métiers-là.
Mais il y a un prix à ça. Ouais.
Est-ce que tu le regrettes?
Il y a des jours que je regrette, mais en général, non. Mais là, je dirais que la vie est assez difficile et il faut se démener. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Alors, je pense qu'il faut payer sa juste part, il faut contribuer. Mais aussi s'assurer que nos enfants sont bien lancés dans la vie.
Le problème, c'est que plus tu as de l'argent... plus tu peux te sauver de ta responsabilité sociale de rendre.
Mais c'est ça, il y a des gens qui ont de l'argent.
Et là,
qui
on pense aux paradis fiscaux.
C'est ça, il y a des gens qui ont des conseillers financiers qui passent leur journée entière à trouver des façons de contourner la fisc.
C'est ça. C'est
fort malheureux pour des gens comme nous qui comptaient sur le système de santé publique, qui ont des enfants dans les écoles publiques, qui n'ont pas de voiture, etc. Donc, il y a comme... il faut trouver une façon de compromis entre ces différents groupes. Et je pense que dans les pays scandinaves, ils ont trouvé des bonnes façons d'arrimer la richesse et la contribution juste à la société. Parce qu'en anglais, on dit ce dont on a besoin, c'est « something to do, something to look forward to, something to love ». Ça, c'est la vraie richesse. Donc, quelque chose à faire, quelque chose à aimer, puis quelque chose à laquelle d'avenir. Quoi.
J'ai Vincent qui me dit, à 500 000, je prends ma retraite.
C'est ça qui est drôle.
C'est drôle, hein? Mais 500 000 piastres, mais il dit pas son âge. Ça nous aurait pris une autre donnée pour calculer, voire d'une façon actuarielle, si ça va balancer. Non, mais
c'est un calcul actuariel.
Mais il faut calculer. C'est pas le montant à la rigueur. Hein? Luc, on s'entend-tu?
Oui, tout à fait.
Donc, on va aller à la pause là-dessus. Mais ça commence à être bien intéressant. Donnez-moi votre chiffre, puis après, vous me dites aussi un peu votre situation. Là. On vous fera pas du conseil quand même fiscal ou financier.
Moi, je dis que c'est pas assez.
Mais à 500 000, des fois, quand il si t'as 20 ans de retraite, t'es mieux de, je sais pas, prévoir quelque chose parce que tu vas vite faire le tour de ton 500, là. D'ailleurs, c'est le problème de bien des gens qui ont pris leur retraite très tôt. Je me souviens, entre autres, moi, j'avais couvert à l'époque où Lucien Bouchard avait ouvert la porte aux infirmières pour qu'elles sortent du système, puis c'était... au bout de quelques... Fait qu'on leur avait donné une certaine compensation, puis il y en a qui étaient très contents, qui disaient, bon, ben je vais la prendre. Il y avait même des offres de pré-retraite, mais avantageux. C'est avantageux une couple d'années, puis à un moment donné, tu te rends compte que là, t'es trop jeune et puis t'en as plus de cash.
Et ou l'autre chose, tu reçois un gros montant puis tu penses que c'est ça, ça va régler tes problèmes et ça règle pas tes problèmes.
Alors, le système de santé a failli crouler en plus.
Dites-moi quel est votre montant à vous. Qu'est-ce que ça vous prendrait, là, combien ça vous prendrait pour vous considérer, vous, là, comme étant une personne riche? 514-790-9850. On se demande ce matin combien ça vous prendrait à vous là, pour vous considérer riche. André, vous avez un montant en tête?
Ben, 150-200, pas en bas de ça, c'est sûr.
Oui. Puis là, à 200, vous seriez riche.
Non, mais ce qui arrive, c'est toujours relatif avec ce qu'on veut faire dans la vie, effectivement. Mais je me dis, deux personnes qui travaillent aujourd'hui, qui ont deux enfants, s'ils font du sport, s'ils sont moindrement corrects, dans le tout, 150 000, là, c'est passé.
En revenu ou...
En revenu?
Oui.
En revenu, parce que...
Brut, là.
Oui, c'est sûr.
Après impôt.
Oui, parce que, tu sais, calculons deux véhicules, deux enfants qui font du sport, qui vont à l'école, et tout ça. Moi, je me dis, le gars, il prend 150 000. Alors, 200, et je considère riche parce qu'il va être capable facilement de voir la fin sans problème à chaque mois.
Mais si vous dites qu'il y a 150 000 de dépenses par année qui fait 150 000, il met zéro de côté par année, il ne sera pas riche longtemps, là.
Non, mais à 200 au moins, là. Mais tu sais, c'est parce que tu peux pas dire, c'est simple de dire on va ramasser des sous pour faire quelques centaines de milliers de dollars par année. Mais c'est pas simple, ça non plus. Ça coûte tellement cher, la vie. C'est 200 000 minimum pour être capable de s'arranger.
C'est que quelqu'un qui fait 200 000 par année va vouloir la grosse maison à Fontainebleau.
C'est ça.
Puis la grosse maison à Blainville. Où moi, j'ai des amis, quand j'ai hérité, comment ça, tu t'es pas acheté une maison autrement? Parce que je serais pas capable de la faire rouler.
Ouais.
C'est 15 000 $ de taxes par année.
Ouais.
Donc, je partirais déjà moins 15 000 dans mon année. L'idée, c'est d'être indépendant, de pouvoir dire non, de pouvoir perdre sa job pendant 6 mois, puis d'être capable de faire face, de pouvoir tomber malade, comme on disait avec
Anne. On a Joe avec nous. Bonjour, Joe. Quel est votre montant à vous?
Ah, vous parlez à moi?
Oui, Joe, c'est vous.
OK, oui. Moi, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai 50 ans, j'ai parti une compagnie, il y a bien des années, j'ai vécu une vie très, très pauvre, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai bâti une compagnie, puis en dernier, je gagnais 300 000, peut-être un peu moins, 200 000 très fort de mon salaire personnel, OK? Puis où que j'ai découvert, quand j'ai vendu la compagnie, avec des conditions, là, je fais 55 000 par année. Ma plus grande liberté, puis mes plus beaux jours sont là. C'est la liberté, là, ça n'a pas de valeur.
Le
matin, ma richesse, c'est la liberté.
Ouais. C'est ce que Luc disait.
Oui, tout à fait. Puis ça dépend de ton train de vie. Donc, dépendamment de ton train de vie, ça fait ça.
Mon
backup,
j'ai un véhicule de payer, le gaz est payé. On s'entend. OK. En partant, ça ne devrait pas payer, là. Mais avec 55 000, avec des dépenses d'un véhicule payé, moi, j'ai la liberté, je me lève le matin. Puis je peux pas croire comment je peux être heureux que j'ai plus rien à m'occuper quand je gagnais 300 000.
Ouais.
Par contre, vous devez quand même rentrer travailler le matin.
Oui, ça m'a gagné.
Moi, la vraie liberté, quand je parle de la vraie liberté, c'est tu décides le matin qu'est-ce que tu veux faire, tu décides quand tu veux le faire, avec qui tu veux le faire. Puis ça fait toute la différence.
Mais Luc, tu travailles pareil. Tu sais, je regarde mon père quand il était à la retraite, là, il allait réparer des tuyaux dans ses vieux logements avec du tape. Il faisait toutes les réparations lui-même. C'était son plaisir de travailler, de continuer à travailler. C'était son plaisir de s'intéresser à gérer
ce qu'il avait accumulé. Ça peut faire partie de ton choix de vie aussi. Mais il y a bien des gens qui... tu sais, la capacité de dire « Hey, demain, là, je prends un billet d'avion, je m'en vais à Hong Kong. »
Ben, la preuve,
qui peut faire ça?
la preuve, j'ai recommencé l'école la semaine passée. Donc, l'école temps plein.
Quel cours?
En quoi?
Je fais un executive MBA à HEC McGill.
Arrête donc!
Oui, puis j'étais jusqu'à hier, on était une semaine à l'Estérel en confinement sur un module qui s'appelle Reflective Mindset, donc un retour à soi-même. Puis réellement, les gens me demandaient, t'as pas besoin d'être ça? Oui, c'est ça. Puis pourquoi pas?
Ils cherchent un job.
Non, mais ça va te donner quoi?
Ben, en fait, c'est un rêve de jeunesse. Moi, entre ma première et ma deuxième année universitaire, j'ai lâché parce que j'ai parti une nouvelle compagnie qui a tellement démarré bien que j'ai pas retourné pour ma deuxième année. Puis,
fait que t'as pas de diplôme, c'est ça que tu veux dire?
Ben, j'ai eu cégep, mais j'ai pas universitaire. Ouais. Puis là, je me suis toujours dit, je vais retourner un jour parce que j'aimais quand même ça, l'université.
Ouais.
Puis là, j'ai du temps. Je pense que j'ai pas besoin de rentrer travailler demain matin. Donc, je me suis inscrit. Puis les gens me demandent, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est un vieux rêve. Puis moi, quand je commence quelque chose, je le finis toujours.
Un défi.
Donc, c'est un défi, effectivement.
Something to look
Mais
for.
Ouais, c'est ça. Et les rêves sont souvent notre moteur.
Il faut rêver pour se sentir vivant.
Jerry Sliski, son rêve, c'était quoi? Lui était espion dans la Deuxième Guerre mondiale et il a fait des études orientales avant de faire la business à Harvard. Et lui, c'était d'être que sa vie soit un exemple. Et le plus important, c'est pas la fortune qu'il a accumulée, c'est qu'il a obligé les compagnies à faire preuve de meilleure gouvernance. C'est grâce à lui que les compagnies en bourse aujourd'hui, ils sont beaucoup plus surveillés qu'avant.
On va à la pause là-dessus. On va vous entendre, bien sûr. Après, je vous demande quel est le montant que vous considérez pour vous là comme étant celui qui ferait de vous une personne riche. Pour être riche dans la vie, vous avez besoin de combien? 514-790-9850. À tout de suite. Bertrand, vous, ça vous prendrait combien là, pour que vous disiez, moi, je suis riche? Puis là, je parle pas votre salaire annuel. Les gens m'envoient là, leur salaire. Je vous demande pas c'est quoi votre salaire idéal dans la vie. Là. Je vous demande, pour être riche, là, ça veut dire vos biens, votre équité, vos actifs, ce que vous possédez, qui est pas forcément votre salaire, ça peut être autre chose. Vous pouvez peut-être avoir un chalet, vous pouvez peut-être avoir une voiture vintage que vous aviez achetée il y a 20 ans, vous l'avez gardée, elle a pris de la valeur. Ça peut, c'est tous vos biens. Là. Calculez les biens que vous avez. Mais il y en a qui déprécient vite des biens comme une auto. Là. C'est sûr que si vous avez acheté une voiture il y a 3 ans, là, déjà en partant, on peut dire que c'est pas forcément la meilleure affaire que tu as faite dans ta vie. T'sais, moi, j'ai un ami, il paye ses voitures cash. Je lui dis, pourquoi tu payes cash? Voyons donc.
Ben, ça, c'est correct, des payer cash. C'est des achetés neufs qui est un problème.
Ouais, en plus, mais tu sais, garde ton cash.
Moi, j'ai payé cash. Moi, j'ai payé cash, mais je l'ai payé usagé.
Mais je pourrais te faire une démonstration. Pourquoi tu aurais pu ne pas la payer cash? Mais en tout cas,
pour sauver de l'impôt.
Non, pour travailler, faire travailler ton argent ailleurs. Luc, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, moi, j'achète des voitures très chères. Puis ça
puis
me
il paye
souvent.
Cash, c'est ça?
Non, j'y finance parce que je fais 5 % d'intérêt, puis je fais 20-30 % dans mes placements.
Voilà, c'est ça
mais
l'affaire.
Aussi, j'achète des véhicules comme des Ferrari que je revends souvent plus cher que ce que j'ai payé un an ou deux plus tard. Donc, même si je me promène avec des véhicules très, très, très haut de gamme, 300-400 000 de la voiture, à la fin de l'année, je ne paye pas
Finalement,
tant
Luc est comme mon père. Hein? Ouais. Il fait tout le temps l'argent. Il dépense pas trop. Là.
Mais essayez pas ça à la maison si vous ne savez pas compter. Il y a ça aussi. Là,
oui,
ça. On a Bertrand avec nous. Bonjour Bertrand. Vous, c'est quoi le montant là, pour être riche dans la vie?
Moi, je vais vous surprendre. Oui? Moi, je vais vous surprendre. C'est 0 $ de dette.
Ben, c'est moi, bon. Sur mon Facebook, tout le monde me répond ça.
0 $ de dette, c'est bon. Dette.
Mais ça moi, vous prend. Je peux pas croire qu'il y a 18 % des aînés qui font faillite quand ils atteignent la retraite.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais là, vous savez, le rêve, il y a quelqu'un qui m'écrit, là, qui me dit, moi, j'ai 52 ans. Et j'ai 450 000, j'ai retrouvé son courriel, j'ai 450 000 j'ai environ 450 000, dont 100 000 hors REER, donc 100 000 d'économie. Maison de 450 000 à demi payée, donc ça veut dire qu'il doit à peu près 200, 225 sa maison. Mon conseiller financier dit que je peux arrêter de travailler à 55 ans dans 3 ans.
Avec 200 000.
Mais avec
dans le fond,
300,
la maison mettons. Payée, ouais. La maison payée avec
200 000. S'il rembourse sa maison, il va avoir 350 000.
Ben, s'il habite dans un petit 4,5 à 800 piastres par mois, pourquoi pas?
Sophie, ça balance pas.
Non.
T'as 55 ans. On meurt
à
82 ans.
À 65 ans. Hey. Déjà là, non, mais t'as peut-être.
Mais ça dépend. Là, c'est l'info qui nous manque.
Ouais, non, mais même la petite pension du gouvernement, là, quelqu'un que.
Hey, moi, je vais recevoir 63 piastres. Voyons donc, je peux même pas faire une épicerie.
Quasiment.
Écoute, voyons donc.
Non, je parle pas du RRQ, je parle de la pension. Non, même la pension fédérale. Ben oui, mais c'est parce que tu fais trop d'argent, c'est pour ça que tu
non,
vas pas
Non, c'est parce
beaucoup.
Que je suis travailleuse autonome, tu comprends? Fait que si on met pas les travailleurs autonomes, puis ça commence à être bien du monde au Québec, Anne, là. Tu sais, il y a une certaine époque, on disait 300 000, après on a dit 500, là, c'est quasiment, c'est 800 000 personnes qui travaillent de façon autonome, qui n'ont pas de retraite payée par quelqu'un. Ni le boss, ni le... C'est pas ta retraite du gouvernement où on nous a prouvé dernièrement, là, les actuaires le disent, on s'en va dans le mur être les
là,
retraites
les gens
publiques.
Qui ont, qui mais que là, ça veut dire... angoisser, non, Isabelle, ça veut dire... faire des crises d'anxiété.
Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser qu'à 55 ans, tu peux prendre ta retraite.
Avec 200 000,
il faut arrêter de penser ça. Ça se peut pas. Sauf si t'es syndiqué puis que t'as 30 ans de effectivement, depuis 30 ans. Il y en a qui...
Le policier qui a travaillé 25 ans, il
peut... Les policiers, chauffeurs d'autobus, les autres, non. Il faut arrêter de véhiculer Ce miroir aux alouettes.
Puis il faut regarder aussi l'impôt, là. Comme le monsieur, le courriel que tu as reçu, ben, il y a peut-être 300 quelques mille derrière, mais là-dessus, l'impôt va dans. Quand il va les prendre, ses rares, ça va être...
Mais c'est la capacité de revenu. Par contre, quand quelqu'un dit ouais, là de dette, là, zéro dette, c'est être riche. Ça se peut. Si tu as une capacité de revenu, quelqu'un qui a les aptitudes, les compétences pour générer des revenus, s'il n'a pas de dette, qui est dans la quarantaine, le professionnel, c'est vrai que les riches, qui n'ont plus de dette d'études, et s'il ne dépense pas, ouais. Moi, je me suis énervée la première année, là, je faisais 50 000, là, je me suis ramassée avec 7 000 sur ma carte de crédit, puis j'étais dans le trou.
Riche,
ben oui,
ouais,
je me pensais riche.
On a Jonathan avec nous. Bonjour, Jonathan.
Salut Luc, c'est Joe.
Ah, bonjour.
moi, je partage un peu l'avis qu'il faut au moins d'un 10 à 20 millions en actifs pour être considéré riche. Puis je partage aussi, Isabelle, à 100% ton point de vue sur faut arrêter d'avoir la mentalité de prendre notre retraite à 55-60 ans.
Oui.
Maintenant, on est en forme plus longtemps. On doit continuer de travailler. Puis, peut-être pas à temps plein nécessairement à partir de 60 ans, mais au moins quelques heures semaine.
Exact. Pour avoir quand même un flux d'argent, un peu de rentrée. Là.
Pas s'ennuyer, non.
Ça coûte tellement cher maintenant qu'une maison que tu avais à l'époque pour 150 000 maintenant est 400, 500 000. Ça coûte cher, puis le maudit préjugé qu'on a aussi de pointer du doigt les fameux riches. On dirait qu'au Québec, là, tu considères quelqu'un riche parce qu'il fait 150 000, je trouve ça aberrant. Ça n'a pas de bon sens. Un revenu familial de 150 000 aussi, t'as pas grand-chose. Ça prend encore là au moins 200, 300 000 de revenu familial pour être confortable. Donc, c'est tout ça là, que j'aime beaucoup là, j'aime votre discussion aujourd'hui là. C'est important là de qu'on enlève ces préjugés là, puis comme un peu tu disais là,
éviter de démoniser les riches et aussi
travailler là, la retraite là, c'est quand que t'es archi riche là, tant qu'à moi là, ou que tu peux te considérer vraiment libre, un peu comme Luc disait aussi là.
Merci beaucoup. Luc, là-dessus?
Oui, faut pas oublier de... Tu sais, on chasse souvent sur les riches, là, mais des gens comme moi, là, on redonne beaucoup à la société. Moi, je donne à plein de fondations pour les... comme par exemple ma fille malentendante, dont je donne beaucoup à cette fondation, mais à plein d'autres. Puis on fait travailler du monde. Les gens qui, comme moi, là, qui créent des entreprises, mais on fait travailler du monde. Fait qu'on crée de la richesse alentour de nous qui eux, font la richesse des petits bébés. Donc c'est l'histoire de la pyramide. Donc, arrêtons de dénigrer les riches, puis soyons fiers de ceux qui font de l'argent, parce que tout le monde alentour en fait.
Oui, on va s'arrêter ici, on va aller à la pause, on revient tout de suite après avec vos commentaires. Vous me dites combien ça vous prendrait dans la vie pour être riche. 514-790-9850. À tout de suite. Bonjour Marc, vous, votre
Bonjour.
Montant, là, vous diriez, bon, moi, à tel montant, je suis riche, c'est combien?
Hey, c'est surréel le matin.
J'ai oui, je sais, c'est le fun, hein, ces discussions-là, j'adore ça, moi.
Wow. Hey, moi, je suis, comme tu dis, un retraité de la fonction publique, là, donc d'après Jean Charest, je suis un gros dur. Là.
Ouais.
J'ai travaillé 36 ans auprès des personnes âgées et des handicapés.
Ouais.
J'ai pris ma retraite au mois d'avril dernier, j'ai 60 ans, okay. Avec un beau 25 000 $ brut par année.
Okay. Votre maison est-elle payée?
Non, ben non, non, maison, ben non, ce salaire-là, on n'est pas capable d'arriver, là. Puis il faut payer les études des enfants, puis tout, là. Ben non, puis le char n'est pas payé non plus, là. Ça, c'est rien, ça. Mais je me demande, si on prend les... Je suis pas fort en mathématiques, là, mais si on prend les chiffres que vos invités ont donnés, là, et puis le minimum que ça prend pour avoir une belle retraite, je serais curieux de savoir combien que ça fait de l'heure à leurs employés, parce qu'ils ont des entreprises. Leurs employés, ils gagnent combien, eux autres, ils sont prêts à donner à leurs employés le minimum que ça prend pour arriver.
La question, monsieur, c'était pas de savoir combien ça prend pour bien vivre ou
non,
pour survivre. Parce que moi, j'ai une amie, elle habite dans un 4,5. Elle fait 25 000 par année, elle se considère riche, elle ne manque de rien. Par contre, la question, c'est quoi être riche?
C'est ça.
Quand on dit que quelqu'un est riche, Quelqu'un qui a un million aujourd'hui, on peut plus vraiment dire qu'il est riche. Quand Philippe Couillard, qui a à peu près ça, là, 1,5 million d'actifs, mettons, avec sa femme, on peut plus dire que c'est une personne riche. Il y a 5 millions de millionnaires. C'est Luc qui disait ça pendant la pause au Canada. C'est pas tous des gens qui se promènent en Maserati puis en Lamborghini. Moi, je me promène dans un char usagé, même si j'ai plus qu'un million d'actifs. Puis dans mes amis, je suis comme une des pauvres, là, dans ceux qui, les grands bureaux, les grands avocats aujourd'hui.
Ah, t'inquiète pas, Sophie, t'es toujours le pauvre de quelqu'un.
Ah non, ça c'est vrai. Luc, est-ce que c'est le pauvre de quelqu'un?
Oui, allez-y, Marc. Oui.
Juste vous dire, là, je suis rentré en 82 à Saint-Charles-Borromée, à Montréal, le tristement célèbre Saint-Charles-Borromée. Quand j'ai quitté au mois d'avril dernier, mon pouvoir d'achat avait baissé de 30 %.
C'est fou pareil. Hein?
Ouais. Hein? Ouais. Ça, c'est décourageant. Depuis que les 15 années libérales, l'austérité, là, on n'a pas eu d'augmentation de salaire. Une augmentation de salaire, normalement, ça devrait être une vraie augmentation de salaire, c'est un pourcentage au-dessus du coût de la vie. Ouais. Mais depuis 30 ans, je n'ai jamais eu une augmentation au-dessus du coût de la vie.
Puis vous savez.
Après ça, on demande aux gens d'aller travailler dans le secteur public. Ben voyons donc.
Vous avez raison, Marc. Puis à un moment donné, il faut travailler pour aussi autre chose que l'argent. Mais c'est quand même le nerf de la guerre. Puis vous avez tout à fait raison. Après, les gens qui ont eu des augmentations de salaire l'année dernière de 1 % parce qu'on prévoyait que l'inflation c'était autour de 1. Puis aujourd'hui, la semaine passée, on a dit « Ah, finalement, ça va être comme plus 2,5 %, excusez. » Mais tu viens de baisser de 1,5 %. Tu as fait zéro, tu as même baissé de 1,5 %. Tu sais, fait que les gens, il y a des gens cette année qui gagnent moins qu'ils faisaient l'année passée. C'est bête de même. Anne, toi aussi, trouves-tu que c'est surréaliste cette conversation?
Mais moi, j'ai comme quelques atomes crochés avec Marc parce que, en effet, il y a des gens qui travaillent dans le secteur public, qui ont une vocation, ils s'occupent des vieilles personnes,
mais
ils travaillent en garderie.
Sur la richesse.
C'est pas du tout dans leur univers, là, l'idée de la richesse. C'est l'idée de vivre, survivre et vivre et avoir quelques plaisirs dans la vie, c'est tout. C'est pas plus que ça. La richesse, c'est dans le domaine de l'impossible.
C'est pour ça qu'il dit surréel.
C'est ça.
C'est pour ça que Marc
dit surréel. J'ai vraiment aimé sa façon d'envoyer la question. Et le fait est que depuis quand même des décennies, le salaire moyen des gens stagne. Ouais. Ça, c'est dans le privé et le public. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui tiennent à bout, tu sais, by their fingernails. Je sais pas comment on dit ça,
on est à un chèque de paix de la faillite dans plusieurs cas, en médiation.
Et donc, il y a un problème, c'est un problème.
Et les couples, déjà, à deux, ils arrivent à peine. Et puis là, ils arrivent dans mon bureau, puis là, ils réalisent que, tu vas avoir maintenant deux comptes d'hydro. Deux comptes de Vidéotron, toutes les dépenses, tu vas avoir deux loyers à payer, tu vas avoir deux épiceries à faire de chaque côté. Et ça veut dire de baisser son rythme de vie. Et ça, c'est extrêmement
difficile
à vivre.
C'est
un traumatisme pour les gens qui se séparent.
Il y a ça, mais pas juste en état de séparation. Dans la vie, il faut aussi se dire qu'est-ce qui est de la dépense volatile du linge. Okay? On a tous besoin de s'acheter un manteau d'hiver bientôt, là. Mais... C'est comme une perte, là. Ton manteau, l'année prochaine, il vaut plus rien, là. Tu peux essayer de leur vendre 20 $, mais tu comprends?
Je pense que j'ai retenu de mon père, là-dessus.
Mais tu sais, Luc, il y a ça aussi, c'est qu'on dépense sur des choses qui perdent la valeur tellement vite alors qu'on n'achète pas des choses qui se valorisent dans le temps.
Ben, tout à fait, là. Moi, exemple, les voitures, ben, les gens disent, ouais, mais tu dépenses beaucoup. Non, à la fin de l'année, je dépense moins que toi que une Audi A4, par exemple, parce que je fais de l'argent souvent avec mes voitures.
Ouais.
Donc, et ça prend des dépenses intelligentes, ça prend... En fait, moi, je dis souvent, tu sais, la personne moyenne va penser à la semaine, au mois, la personne riche va penser aux années puis aux décennies. Puis les ultra, ultra riches pensent 20-30 ans en avant. Donc, c'est un peu de prévoir l'avenir, puis inconsciemment, si on dit, on se donne des objectifs, qu'à temps, on veut ramasser tant d'argent, bien, inconsciemment, on va réussir probablement à avoir notre objectif, puis de façon tout à fait inconsciente. Puis
Mitch Garber, là, quand il a commencé, il est ultra riche, là, lui. Mais lui puis sa femme, ils étaient deux professionnels, ils mettaient 1 500 $ de côté par mois pendant que là, les chums, puis moi, c'était dans ma gang, là, ça, les jeunes
et la journée, il y a eu,
on dépensait, puis on foulait notre carte de crédit, puis on était dépendant de notre salaire. Bien, eux, pendant ce temps-là, ils n'allaient pas au restaurant, puis ils mettaient de l'argent de côté.
Et la journée où tu as une opportunité, puis il faut que tu mettes 50 000 cash, bien là, toi, tu l'as économisé. Une bonne façon de s'enrichir aussi, il faut faire attention toutefois, c'est de se partir sa business, son entreprise.
Ou de s'appauvrir.
Ou de s'appauvrir, c'est ça. ça, mais il faut que tu prévois tes affaires.
Il faut prévoir. Ouais. Tu sais, moi, je mets de l'argent dans mes des régimes épargne-études pour mes enfants, des REI pour ma fille. Puis, j'ai des grosses assurances vie, justement, pour, si je décède, payer les impôts au décès. Ouais. J'ai plus que 32 millions d'assurances vie. Donc, faut vraiment prévoir l'avenir. Puis, il y a beaucoup de riches là, qui pensent pas à mettre des REER, des régimes épargnés pour les enfants, puis on sait pas qu'est-ce que l'avenir nous...
C'est la pression. La pression aussi d'avoir de l'argent. Moi, je connais des gens qui habitent dans un quartier. Si t'as pas de Tesla, t'es un pauvre.
Oh, mon Dieu.
Il y a des fois, y a autant qu'on peut démoniser les riches, autant qu'entre les gens qui ont beaucoup d'argent, il y a cette espèce de jugement de qu'est-ce que tu comptes.
Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que Luc a dit, c'est l'idée d'essayer de planifier, de penser
à plus tard.
Oui, parce que ça, je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui le font.
Non, et je vous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent au jour le jour et à la semaine, c'est-à-dire il y a le tiers des Québécois qui vit d'une paye à l'autre, il faut garder ça en tête.
Ouais, c'est donc, à éviter, c'est possible.
Et j'espère que nos gouvernements vont entendre nos discussions parce qu'il faut penser à ça aussi. Comment on peut aider les gens aussi à s'enrichir? T'sais, on parle beaucoup de ça, création de richesse, il faudrait vraiment qu'on s'y attelle. Merci à toutes les trois.
Merci.
Les trois. Merci bien.